du vin.
Lite kraftigt, de får samma mat som kossorna.
Le magazine de l'environnement.
Men då behöver de få lite extra, så då ger jag dem lite extra.
Sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous parlons d'une nouvelle économie qui s'est insidieusement construite ces 50 dernières années, l'économie symbiotique. Enfin, une solution pour sortir de l'impasse dans laquelle nous nous sommes mis avec la révolution industrielle, basée sur l'exploitation des ressources naturelles et l'inégalité des revenus à l'échelle mondiale. Isabelle Delannoy, le livre que vous venez de publier, l'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société chez Actes Sud, c'est le résultat donc de 10 années de recherche, de 6 années d'écriture, et vous êtes partie de l'observation des nouveaux modes de production et d'organisation qui existent déjà. Alors, expliquez-nous quels sont les petits signaux comme ça qui, en rassemblant le puzzle, vous ont permis de voir un tout.
Alors, tout d'abord, c'est toutes ces logiques, elles fonctionnent en écosystème.
Alors, donnez-nous des exemples.
Par exemple, la permaculture.
Alors, c'est une forme d'agriculture. Expliquer ce que c'est.
Voilà. Alors, la permaculture, c'est une forme d'agriculture, en fait, qui crée des écosystèmes vivants à partir d'une diversité d'espèces. Elle va associer des espèces qui vont être complémentaires. Ce qui fait que l'une qui est capable de fixer l'azote va nourrir l'autre qui est capable de lui apporter du sucre, par exemple, ou qui est capable d'extirper des minéraux du sous-sol et qui vont nourrir l'ensemble de la parcelle. D'autres vont être capables de pouvoir nourrir les parasites, en fait, de ces cultures, et ce qui fait que ça va soulager les espèces effectivement cultivées. Et donc, comme ça, elles rentrent en complémentarité à partir du moment où les besoins de l'une sont assurés par les ressources apportées par les autres, eh bien le système, au fur et à mesure, devient autonome et très riche en biodiversité et se comporte comme un réel écosystème. Ce qui fait qu'il a besoin de moins d'intrants, et on va vers le zéro intrant. Il est plus productif que des systèmes conventionnels. Et en étant plus productif que des systèmes conventionnels, il régénère aussi les sols parce qu'ils reposent sur le moteur écologique du sol.
Et en fait, la permaculture se base, comme vous le disiez, sur l'intelligence des écosystèmes dont on devrait, avec humilité, davantage nous inspirer. Alors par là, vous rejoignez l'approche de l'industriel belge Gunther Paoli, qui lui a inventé le concept d'économie bleue qu'il était venu nous expliquer dans C'est pas du vent.
Je suis arrivé à cette réflexion tout à fait simple qui dit zéro déchet, zéro pollution, zéro émission. Et bien entendu, tout le monde me dit, c'est pas possible, on a toujours des déchets, on a toujours des émissions. Je dis, oui, c'est vrai, mais dans la nature, il n'y a personne qui ne réutilise pas les déchets d'un autre. Alors, un arbre perd ses feuilles, mais les feuilles sont utilisées par les champignons pour y faire pousser ses fruits. Et les champignons, les déchets de champignons, est une nourriture idéale pour des animaux. Et alors, ensuite, ça continue. Et dans la nature, tous les déchets sont toujours réutilisés avec une plus-value. Et en plus, et l'écosystème n'utilise que ce qui est localement disponible. Et quand nous, en tant qu'êtres humains, nous ne voyons pas les ressources, la nature trouve toujours, même si c'est le désert de Namibie, trouve toujours des solutions.
Alors c'est vrai, Isabelle Delannoy, que dans les écosystèmes, il n'y a pas de gaspillage finalement.
C'est ça, et puis surtout, il y a de la production. En fait, c'est une croissance en spirale, c'est-à-dire qu'on régénère à la fois les ressources originelles et on en crée de nouvelles. Si vous regardez, je ne sais pas, n'importe quel arbre que vous allez planter, eh bien au fur et à mesure, il va grandir, et la nature produit davantage, en fait, qu'elle ne consomme. Et c'est pour ça que la notion de croissance est très naturelle, en fait. Si vous regardez la Terre, eh bien, il y a 3,5 milliards d'années, c'était une Terre stérile, c'était nu, c'était de la roche et de l'eau. Et quand vous voyez le foisonnement de diversité que le vivant crée, eh bien, on est exactement dans ce genre de logique. C'est-à-dire qu'on crée à chaque cycle de production des écosystèmes vivants.
Alors l'homme commence à avoir un peu d'humilité malgré tout, puisqu'on voit se développer, par exemple, le biomimétisme dont vous parlez dans votre livre, qui est une science qui a été théorisée par l'américaine Janine Benyus. Et en fait, l'idée, c'est de dire, inspirons-nous justement du vivant. Il y a de plus en plus d'inventions qui viennent de ce biomimétisme. Ça fait partie de l'économie symbiotique ?
Alors, c'est un service rendu par les écosystèmes vivants, leur intelligence. Et du coup, on peut les utiliser pour améliorer nos machines, les rendre plus performantes, améliorer nos infrastructures, nos bâtiments, même nos organisations. Mais si vous n'utilisez l'intelligence du vivant que pour construire des ressources très humaines, très machines, très infrastructures faites avec des moyens extractibles, eh bien, vous serez toujours dans l'économie extractive et vous ne ferez que améliorer sa performance. Donc, c'est important de reconnaître l'intelligence du vivant et de s'en inspirer pour nos machines. C'est encore plus important d'utiliser cette intelligence du vivant et d'en faire un acteur industriel à part entière. Comme l'intelligence des écosystèmes va remplacer les fertilisants azotés, potassiques, etc. dans un champ en permaculture.
C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin que simplement l'imitation, il faut reproduire. Alors c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle par exemple ? C'est-à-dire des bassins d'industrie dont les déchets de l'une servent de matière première à l'autre ?
L'écologie industrielle, c'est une forme de ces logiques qui fonctionnent de la même façon. Mais là c'est pareil, si vous êtes toujours sur des ressources extractives, même si vous diminuer de 20-30% les impacts, vous êtes toujours dans de l'impact. Non, il faut vraiment voir les écosystèmes comme des acteurs industriels à part entière en premier lieu. Une forêt est capable de purifier l'eau jusqu'à la qualité eau potable. Et puis, le bois de recoupe, le bois d'entretien, on va dire, va pouvoir vous donner du bois de chauffage. Et puis, dans beaucoup de pays, c'est encore des réservoirs de molécules médicinales pour des médicaments, pour du soin. C'est-à-dire que si vous ne voyez dans la forêt que son bois ou son bois de chauffage, vous coupez toute cette intelligence en amont qui a une valeur économique énorme. New York, en préservant sa forêt pour s'alimenter en eau potable, a réalisé des millions de dollars d'économies tout en permettant à des nouvelles filières économiques de s'installer.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que notre niveau de connaissance a évolué à nous les humains. Donc du coup, on arrive mieux à observer, à capter l'intelligence de ces écosystèmes naturels. Par exemple, pour filtrer les eaux usées de nos grandes villes. C'est en tout cas la conviction de Thierry Jacquet qui s'est lancé dans cette aventure avec son entreprise PhytoRestore.
Le principe des jardins filtrants, donc d'utiliser des plantes pour dépolluer, nous les avons développés d'abord à partir de recherches. Pour déjà sélectionner les plantes qui seraient les plus performantes et aussi pour travailler sur des nouveaux mécanismes de transfert. Donc on utilise les plantes pour tuer la pollution par les racines essentiellement. Pour la dépollution par les plantes, j'aime bien rappeler en fait qu'il n'y a que deux types de polluants. Il y a les polluants biodégradables, donc tous ceux qui sont organiques généralement. Donc là, les racines vont émettre de l'oxygène, vont activer les bactéries et les champignons dans le sol et on aura une très bonne biodégradation des polluants biodégradables. Et puis, il y a les polluants incassables, ceux qu'on ne peut pas biodégrader. Il y a les métaux lourds, mais il y a aussi des pollutions organiques très complexes, des molécules pétrolières, des molécules issues de la chimie. Celles-ci, on va les remobiliser, donc on va faire de la phytolixiviation et on va les piéger dans un filtre de piégeage.
Alors, qui est aussi un filtre à base de plantes ?
Alors, c'est un filtre planté.
Parce que là, c'est technique un peu.
Oui, ça devient un peu technique. C'est pour ça que la révolution qu'on a en ce moment dans la dépollution par les plantes, c'est qu'on utilise maintenant des procédés très compacts et très rapides. Par exemple, pour la dépollution de l'eau, on va pouvoir dépolluer de l'eau en 8 heures. On est bien loin des lagunes où il fallait 40 jours. Pour l'air, c'est en 2 secondes.
En 2 secondes ?
Oui, le temps que l'air traverse le filtre planté et soit au contact des racines. Pour les sols, on arrive à dépolluer en 1 an. On est loin des 20 ans. Donc on n'est plus dans les mécanismes de bioaccumulation des polluants dans la plante. Donc la plante mangeuse de pollution, il faut l'oublier. Ce n'est plus du tout ça. Donc on travaille à partir des nouveaux procédés qu'on a mis au point scientifiquement et qui sont aujourd'hui extrêmement performants dans le monde industriel et pour les villes.
Après, Isabelle Denanois, il y a des questions d'échelle. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment dépolluer une immense ville de 10 millions d'habitants grâce à des plantes ?
Comme disait Thierry Jacquet, on est passé du silex au rayon laser, hein, à ce niveau-là, en quelques décennies, en fait. Et pour le lagunage, il fallait avoir, enfin, un lagunage, c'est 12 mètres carrés par équivalent habitant, pour traiter les eaux d'un seul habitant. Aujourd'hui, d'après Thierry Jacquet et d'autres professionnels, on atteint 0,5 à 1 mètre carré, 3 mètres carrés. Et on a des études qui ont été faites, par exemple, à Berkeley, l'université de Berkeley, qui montrent que même les villes denses de type européenne ont assez d'espace pour pouvoir intégrer ces fonctions-là dans la ville. Et ce qui est très très intéressant, c'est que d'abord, ça donne du paysage. C'est magnifique. Vous avez des paysages de joncs, de roseaux qui vont avoir leurs racines et leurs microbes particuliers pour prendre d'abord les gros déchets.
Ouais, c'est puis plus après... sympa que des tuyaux souterrains, c'est sûr.
Ah, c'est, voilà, c'est ça.
Et mais puis vous dites qu'il y a l'espace.
Et surtout les centrales d'épuration. Mmh. Après, vous allez avoir des iris, des mantes aquatiques, des sagittaires. C'est magnifique. Puis jusqu'au nénuphar. Donc, c'est très, très paysager. Et oui, on a l'espace. Les études montrent qu'on a l'espace. Et parce que, en fait, on a déjà, dans beaucoup de réglementations maintenant, on a un pourcentage d'espaces verts par mètre carré habité obligatoire. Et surtout, cette station d'épuration, c'est aussi, ça peut être au milieu d'une rue, ça peut être un square, ça peut être un lieu de passage. Et elles peuvent aussi même se marier avec la permaculture parce que elles ont des eaux propres, mais riches en nutriments. On arrive à la qualité eau de baignade quand même. Hein. Et ça, c'est idéal pour l'agriculture. Et la permaculture a besoin de ce genre d'écosystème pour être pleinement productif. Donc là, de nouveau, on a des synergies qui se marient où dès qu'on a des humains, qui vont donc forcément rejeter des eaux usées, eh bien, vous avez toute une chaîne de productivité qui peut s'enclencher.
Donc, ça veut dire que dans les villes, au lieu de mettre des plantes ornementales, il faut mettre des plantes qui filtrent ou il faut mettre de la production agricole. Et là, on sera déjà beaucoup plus dans la logique de l'économie symbiotique qui est donc déjà en marche.
Chaque mètre carré devient multifonctionnel et productif. C'est chaque mètre carré qui est pris à la terre sans véritable raison, si vous voulez, est un mètre carré perdu pour la productivité et aussi pour notre bien-être. Parce que nous sommes très sensibles à ces écosystèmes végétaux. Nous, ils nous déstressent, ils améliorent la vie sociale, ils diminuent la violence même domestique, ils améliorent la réminiscence des maladies, ils améliorent la productivité au travail. On devrait tous avoir au cœur des bureaux et des habitations ce genre d'écosystème.
On va commencer par demander à la direction de RFI de mettre des plantes dans ce studio.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Yes, we did, girl. It took a lot.
Thompson dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons d'un nouveau concept révolutionnaire, l'économie symbiotique qui est en train d'émerger partout sur la planète. Une nouvelle économie qui repose sur la puissance des écosystèmes, l'intelligence humaine et la technologie. Un autre exemple de l'incarnation de cette économie, ce sont ceux que l'on appelle les transitionneurs, c'est-à-dire ceux qui ont compris qu'il fallait se déconnecter du système global et penser leur vie quotidienne autrement. Par exemple, à Villeurbanne, près de Lyon, une dizaine de familles a décidé de mutualiser leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement. Accompagnés par Abicop, une association qui milite pour relancer l'habitat collectif en France, ils ont obtenu un prêt collectif garanti par le Grand Lyon et la ville de Villeurbanne. 10 ans plus tard, donc, leur village vertical fait 5 étages. Pauline Mocor est allée à leur rencontre.
Je suis Antoine, je vis au village avec ma famille nombreuse, au 2e étage. Et je fais partie de la petite équipe qui a démarré l'aventure du village vertical il y a 10 ans. L'idée de départ, c'est que quand on a une 30aine d'années, qu'on a une famille et qu'on veut la loger correctement au centre-ville, c'est extrêmement difficile. Donc soit on rentre en concurrence tous les uns avec les autres pour essayer de trouver le bon plan, soit on se groupe pour trouver une solution collective, parce qu'on est plus fort ensemble. Quand on mutualise de l'espace, quand on mutualise des véhicules, quand on fait des achats groupés dans le voisinage, quand on s'échange des services, on a une qualité de vie qui augmente pour des prix qui sont faibles. Donc on peut minimiser notre impact sur le climat et les ressources naturelles et les ressources énergétiques sans sacrifier sur le bien-être. Au contraire, pouvoir acheter un certain nombre d'équipements parce qu'on les va les partager avec ses voisins, c'est avoir l'usage d'un certain nombre d'équipements qu'on ne pourrait pas se payer individuellement.
Est-ce que du coup, vous pouvez établir un parallèle entre ce rapport que vous avez à la propriété collective et le rapport de responsabilité que vous avez vis-à-vis de la planète, de l'environnement ?
Alors, il n'est pas très difficile à comprendre ce rapport. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une sorte d'impasse planétaire sur la gestion des ressources et le vivre ensemble ? C'est l'accaparement par quelques-uns de la richesse. À partir du moment où on a compris et structurellement on a établi que le bien est collectif, du coup tout le monde fait attention à la préservation de ce bien, de ses richesses et de ses ressources. Voilà où est le vrai changement de mentalité.
Est-ce que pour vous, cette démarche incarne l'économie symbiotique qui fonctionne en écosystème, finalement, tous ces habitants dans leur village vertical ?
Tout à fait, on a un écosystème social, on a même un écosystème un peu technique, parce que finalement, ils se partagent des machines, des équipements qu'on imagine de très bonne qualité, parce qu'il faut qu'elles durent, surtout si les usages sont multiples. Et donc, là, on a quelque chose qui est très efficace pour réduire, en effet, l'empreinte énergétique, empreinte matière. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur les écosystèmes vivants, bon, là vous avez toute une part de l'énergie, toutes ces activités industrielles faites par les végétaux, eh bien ils canalisent leur énergie eux-mêmes et la transforment en plus en plus-value. Donc déjà, c'est une source d'énergie à ne pas fournir qui est juste énorme, d'accord, pour assurer ses fonctions. Et ensuite, ces écosystèmes sociaux, ils arrivent, ils favorisent en effet des systèmes qui sont beaucoup moins coûteux énergétiquement parce qu'ils mutualisent les objets et puis parce que du coup, il y a beaucoup moins d'extraction de ressources. Tout à l'heure, on entendait que l'extraction des ressources, c'est 10% de la consommation énergétique. Et après, il faut compter la transformation, le transport, etc. de matériel de plus en plus de mauvaise qualité, alors que là, il reste et là, il va être réparé. Et ça, on peut même l'imaginer au niveau d'un quartier. au niveau d'un territoire, ça existe déjà.
Alors après, la question qui fâche, évidemment, c'est remettre en cause le système existant, c'est-à-dire que tout cela bouscule l'économie installée. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des pans industriels qui s'écroulent pour que d'autres se créent. C'est là où il y a des résistances.
À part l'économie extra, vraiment, les activités minières, les activités vraiment ultra-financières, extractives, comme on disait tout à l'heure, la viande, l'élevage de viande intensif dans des conditions impitoyables comme on les connaît. Si vous voulez, il faut des gros et des petits parce que il y a des productions qui sont plus qui nécessitent plus d'investissement qu'un jardin partagé. Un jardin partagé avec votre commune, vos voisins, vous pouvez faire quelque chose. Si vous voulez installer un système d'autopartage, fabriquer localement, posséder localement, eh bien, là, il va falloir que vous ayez et les citoyens et les élus et des constructeurs automobiles et des usines, des micro-ateliers d'assemblage au niveau d'un territoire qui vont devoir se former. Et ça, c'est, on commence à voir ce genre de choses. Hein. Dans l'énergie, on l'a. À Genève, par exemple, on a eu la plus grosse coopérative d'autopartage. Alors, ils ne produisent pas eux-mêmes leurs voitures, mais c'est bien une coopérative. C'est des citoyens qui se sont mis au départ entre eux pour pouvoir partager des voitures. Donc, elle naît des territoires, en fait. Il faut créer des clubs, des groupes d'entrepreneurs, de citoyens, d'élus, et se demander localement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouvelles logiques.
Alors c'est peut-être dans les pays les moins développés que l'économie symbiotique va se développer le plus rapidement. Par exemple, je vous propose d'aller au Togo, plus précisément à Djidjolé, c'est un quartier au nord de Lomé. C'est là que s'est installé le WeLab. Nous avons reçu son fondateur, Sename Kofi Agbodjinou, qui nous a expliqué la philosophie du lieu.
WeLab, c'est ce que nous avons appelé un espace de démocratie technologique. C'est un lieu dans le quartier ouvert à tous où des jeunes peuvent venir librement développer des projets technologiques et travailler sous cet esprit intelligence collective.
Alors ça regroupe combien de personnes ?
Dans la communauté du WeLab, c'est-à-dire le petit noyau de jeunes qui tiennent vraiment le lieu, les plus fidèles, on est une vingtaine.
Une vingtaine et qui donc ont incubé plusieurs entreprises, c'est ça ?
On a commencé par développer des projets technologiques et depuis quelques mois, on a lancé aussi un programme d'incubation pour aider ces jeunes-là à prototyper aussi des entreprises qui leur permettent de vivre de ces projets-là qui sortent du WeLab.
Donc aujourd'hui, il y a 5 entreprises, mais il n'y a pas de chef d'entreprise.
Non, on est tous les 20 dans la communauté, propriétaires des 5 entreprises. Et la richesse que ramènerait une des entreprises est partagée sur l'ensemble de la communauté.
Alors l'un des membres du WeLab, Afateg Nikou, a inventé une imprimante 3D. Alors on va rappeler déjà pour les auditeurs ce que c'est qu'une imprimante 3D. Et après, on verra quelle est sa particularité.
Une imprimante 3D, c'est une machine qui permet de produire des objets préalablement dessiné avec un logiciel 3D. Donc, celle que nous développons, nous, produit des objets en plastique, donc par accumulation de strates de plastique fondu.
Et surtout, elle est fabriquée à partir d'objets recyclés, cette imprimante 3D.
Oui, c'est une machine que Afat, son inventeur, a vraiment voulu à base de ressources disponibles localement. Et donc, comme les déchets informatiques sont une ressource maintenant pour notre pays,
malheureusement, ouais.
On a décidé d'utiliser ce matériau-là.
Isabelle Delannoy, comment réagissez-vous ?
J'adore cette expérience, j'en parle d'ailleurs dans mon ouvrage. Il combine absolument tout, cette imprimante 3D dont il parle, c'est une imprimante 3D en open source qui est le fondateur Adam Boyer, voulait que la RepRap puisse, enfin c'est une RepRap, c'est-à-dire une imprimante 3D qui peut à la fin régénérer une imprimante 3D, c'est-à-dire s'auto-reproduire. Et beaucoup de pays pauvres aujourd'hui sont des poubelles électroniques, hein. Donc c'est des métaux qui ont justement été qu'aujourd'hui on peut extraire dans sa cuisine, quoi. C'est-à-dire que c'est là où on n'a plus besoin de... C'est plus très capitalistique. Il faut évidemment trouver les normes de sécurité, les normes pour les façons de faire pour pas que les gens s'empoisonnent en faisant brûler le plastique pour récupérer les métaux, etc. Mais on a tous les potentiels, notamment en Afrique, qui est un continent jeune, ultra-entrepreneur, avec une ressource humaine d'intelligence, de débrouillardise. Les Fab Labs d'Afrique sont les meilleurs du monde, hein. et où on a aussi des savoir-faire de d'agriculture, de justement cette agriculture en écosystème, etc., qui est absolument prodigieuse. C'est un système qui n'est pas encore centralisé. Or, cette nouvelle économie n'est pas centralisée. Donc, on a vraiment de quoi faire en Afrique des écosystèmes productifs locaux, à la fois industriels, agricoles, énergétiques, de formation, et en impliquant directement la communauté, comme le fait le Wu Elab, qui s'est installé dans la rue. Ce qui fait qu'il a réveillé la créativité individuelle. Et vous savez que le MIT montre que 77% de l'innovation réelle vient des usagers.
Donc l'Afrique sera le continent de l'économie symbiotique.
Mais pour moi, c'est un continent. En tout cas, ils sont en bonne liste.
Merci beaucoup Isabelle Delannoy d'être passée dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, L'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société. C'est publié chez Actes Sud qui offre aux auditeurs 5 exemplaires du livre. Donc les 5 premiers auditeurs qui nous écriront à c'estpasduvent@rfi.fr recevront un livre chez eux, alors à vos claviers. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Demain, nous verrons que même dans la réserve du Maasai Mara au Kenya, la faune et notamment les guépards disparaissent. Et nous vous ferons découvrir une initiative formidable, des mini-maisons à installer dans les jardins des propriétaires qui souhaiteraient accueillir des réfugiés. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.